Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est évidemment dans ce studio avec moi, avec sa précision scientifique mais aussi son humour légendaire. Et oui, on peut plaisanter même sur les questions de santé, c'est le docteur Jimmy Mohamed.
Mais c'est royal aujourd'hui,
c'est tapis rouge en ce moment,
mais
je ne sais pas pourquoi.
C'est la fin de saison, la nostalgie.
Je vous chouchoute.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au programme aujourd'hui, on vous propose un éclairage sur le diabète, maladie qui concerne plus de 5 millions de patients en France. Et dans cette émission, on va s'adresser à eux et les aider à mieux vivre avec leur pathologie, que vous souffriez d'un diabète de type 1 ou 2 ou même d'un prédiabète. On va répondre aux questions les plus fréquentes posées par les patients avec des conseils de prévention, de diététique. On fera même le point un petit peu sur les traitements. Et pour nous éclairer, nous recevrons le professeur Fabrice Bonnet. Il est diabétologue au CHU de Rennes. Ensuite, dans notre séquence Les mots du quotidien, Jimmy a décidé de revenir sur ce qu'est vraiment l'éjaculation précoce. Quand faut-il consulter? Comment résoudre ce symptôme qui peut vraiment nuire à la qualité de vie des hommes concernés? Il nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de handicap et de sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Voilà, à présent pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer aujourd'hui par cette question de Mylène, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Moi j'ai des glaires dans les selles et j'ai l'impression de saigner quand je vais aux toilettes. Je comprends pas ce que ça peut être, ni d'où ça vient. On m'a parlé de polype, est-ce que ça peut être ça et surtout c'est quoi en fait? Merci d'avance pour votre réponse.
Alors pour vous répondre Mylène précisément, nous avons interrogé pour vous le docteur Jean-Jacques Reynaud, il est gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
C'est une question qui est difficile parce qu'il manque des éléments d'interrogatoire associés aux glaires. Les glaires, c'est quoi? C'est du mucus. Et donc le diagnostic dépend des signes qui sont associés. Alors il y a trois grands diagnostics. D'abord les polypes, qui sont des petits morceaux de chair qu'on trouve au niveau du côlon qui poussent de manière anormale, qui peuvent être bénins ou malins. On peut aussi avoir une inflammation ou une infection, qu'on voit notamment dans la rectocolite hémorragique, mais là il y a beaucoup de sang et de la diarrhée. Et si on peut avoir un traumatisme de la muqueuse rectale, c'est le troisième diagnostic, lors de constipation. Et là, c'est parfaitement bénin. En tout état de cause, il faut voir un gastro-entérologue qui va faire une rectoscopie, voire une coloscopie. J'espère que ça vous aura été utile. Au revoir.
Voilà, c'était le docteur Reynaud au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, celle que nous a envoyée Marie via le compte Instagram de l'émission. Je vous la lis tout de suite. Elle dit « Suite à mon premier accouchement par césarienne, il y a bientôt 8 ans, j'ai fait une grosse hémorragie et j'ai été sauvée grâce à plusieurs transfusions. Je ne peux plus donner mon sang depuis. Pourquoi, malgré que ce soit depuis si longtemps ?» Alors Jimmy, pour commencer, pourquoi effectivement, dans le cas de Marie, dans le cas des gens qui ont qui sont passés par la transfusion pour une raison X ou Y, eh bien, un don du sang est interdit finalement à vie, puisque c'est ça aujourd'hui la règle.
Exactement, c'est l'établissement français du sang, le EFS, qui refuse que ces donneurs puissent donner, que ces receveurs puissent donner par la suite leur sang. Alors en fait, souvent, ces personnes peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un antécédent ancien de transfusion me contre-indique à donner au bout de quelques années, alors que tout va bien et que tous les bilans montrent que tout va bien? Eh bien, la France, malgré tout, depuis des décennies, elle opte pour le principe de précaution.
On est très très strict sur les conditions.
Et elle a décidé que certaines catégories de personnes ne pourraient jamais donner leur sang, soit du fait de certaines maladies ou d'antécédents. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, c'est juste les règles qui sont telles quelles. Et pour le principe de transfusion, on considère que peut-être ces personnes sont susceptibles d'avoir été contaminées par des agents infectieux, de nouvelles infections, de nouvelles bactéries.
Qu'on ne connaîtrait pas, hein, c'est
exactement,
ça. Voilà.
Qu'on ne pourrait pas encore détecter. Et donc, pour protéger les donneurs, on décide de les exclure de manière très arbitraire, je suis d'accord. Mais c'est encore une fois pour garantir la sécurité du donneur et éviter que des problèmes arrivent.
Donc, c'est un principe de précaution poussé vraiment à l'extrême. Alors, quelles sont les autres contre-indications médicales, je m'entends, dans les grandes lignes qui empêchent de donner aujourd'hui?
Alors, il y en a plein. Et d'ailleurs, vous aurez un entretien au préalable, vous remplissez un questionnaire. Et puis, en cas de doute, vous allez voir un médecin. Alors, je vous en citais quelques-unes. Si jamais vous avez eu des antibiotiques dans les deux semaines qui précèdent, vous ne pouvez pas donner. Si jamais vous prenez certains traitements, je pense notamment aux adolescents qui vont prendre du roaccutane, ils ne peuvent pas donner, exactement, contre l'acné. Si jamais vous avez de la fièvre, vous avez de la température en ce moment, vous ne pouvez pas donner. Des antécédents de paludisme. Si vous avez eu un tatouage il y a moins de 4 mois, puisqu'on considère qu'il y a un risque d'hépatite B lié aux aiguilles. Et puis si jamais vous avez séjourné, là pour l'instant ce n'est pas le cas, mais dans certains pays où il y a des maladies particulières, on vous évitera de donner durant une période aléatoire en fonction de la destination et et du virus. Et puis encore une fois, si jamais vous avez plein de partenaires sexuels différents, et bien là encore, on vous
ça
dira
paraît
de, exactement.
Assez évident, effectivement. En revanche, Jimmy, et on va en profiter quand même, parce que là, on a parlé des exclus, mais il faut parler de tous ceux qui ont le droit, pour le coup. On va lancer un appel, parce qu'en ce moment, tous les dons sont plus que les bienvenus, avec les conditions dont on vient de parler. Les réserves actuelles de sang en France sont au plus bas et c'est très inquiétant.
Oui, car les besoins sont constants. On a besoin tous les jours de 10 000 dons de sang pour assurer la sécurité des patients qui vont être transfusés. Et puis, mine de rien, avec l'espérance de vie, eh bien, on a de plus en plus besoin de produits sanguins. Je ne donnerai qu'un seul chiffre. Eh bien, en 10 ans, on a augmenté de 30% les besoins en globules rouges. Et on estime que chaque année, c'est 1 à 3% de croissance en plus des besoins. Donc, ça veut dire que quand l'offre baisse, eh bien, la demande elle reste constante. Et donc, il faut donner.
Alors, il y a un autre problème en ce moment. L'établissement français du sang craint aussi que la vaccination de la population contre le Covid, qui est une bonne chose, bien sûr, mais laisse croire à certains qu'une fois vacciné, on ne peut pas donner tout de suite ou quand on a eu le Covid. Là-dessus, vous pouvez nous rappeler les règles.
Si vous êtes vacciné, quel que soit le type de vaccin, première ou deuxième dose, il est possible d'aller donner son sang dans la foulée. Il n'y a pas de délai particulier. On va vous poser la question, vous répondez. Même s'il y a d'autres vaccins qui vont contre-indiquer le don de sang, mais celui-là ne pose aucun problème, quel que soit le vaccin, quelle que soit la dose. Et si jamais vous avez eu le Covid, il faut attendre 2 semaines avant de pouvoir donner.
D'accord. Et donc, vacciné ou non, Jimmy, on n'hésite pas. On va donner si on le souhaite, car on peut tous en avoir besoin un jour. Rappelez-nous, dans les grandes lignes, encore une fois, on n'a plus beaucoup de temps. Pour qui ces dons de sang?
De la route, hémorragie de la délivrance d'une femme enceinte, chirurgie, maladie avec des cancers sous chimiothérapie, des maladies du sang, des leucémies. Bref, ça peut concerner tout le monde et même nous un jour ou l'autre. Donc donner.
Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, surtout n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang. Merci Jimmy. Si vous voulez aussi nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour consacré au diabète. Plus de 5 millions de Français concernés par cette maladie chronique. Comment mieux vivre avec des conseils pratiques de nutrition, de prévention pour mieux se soigner au quotidien. On va tout vous expliquer. Alors une seule chose à faire, restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Fabrice Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue au CHU de Rennes. Vous êtes également l'auteur du livre Mieux vivre avec un diabète qui est paru aux éditions Marabout. Alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le diabète, même si bien sûr il y a plusieurs formes, mais d'un point de vue global, qu'est-ce qui dysfonctionne dans l'organisme?
Alors le diabète, c'est le taux de sucre dans le sang qui s'appelle la glycémie qui est trop haute. Donc ça se voit sur une prise de sang, ou parfois aussi une analyse d'urine. Donc le diabète, c'est ça, c'est l'élévation de la glycémie. Alors il y a deux types de diabète, mais à chaque fois le résultat est le même, c'est la glycémie qui est trop haute.
Et justement, comment est-ce qu'on sait qu'on est diabétique en dehors d'une prise de sang? Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent laisser penser qu'on aurait une glycémie, un taux de sucre trop élevé?
Mais malheureusement, pas beaucoup en fait, à un stade tardif. On peut avoir une glycémie élevée et se porter très très bien et avoir aucun signe, aucune douleur. C'est pas douloureux. Un signe tardif, c'est quand on a très soif, quand on urine beaucoup, on se lève la nuit. Ça, c'est un signe qui peut alerter. Ça veut pas dire à chaque fois qu'on se lève la nuit qu'on est diabétique, mais c'est déjà un stade où on est à plus de 2 grammes de glycémie.
Oui, donc on est déjà bien diabétique, ouais. Quoi, hein, c'est ça. Vous avez dit qu'il existe deux types de diabète. Alors, on va peut-être pas rentrer complètement dans les détails, mais juste expliquez-nous la différence entre les deux.
Oui, le diabète, autrefois, on disait insulino-dépendant, qui touche 8 à 10% seulement. Bah, c'est une minorité, c'est le 1. Voilà. C'est le diabète plutôt du sujet jeune, plutôt maigre. Et la grande majorité, c'est le diabète de type 2 qui n'est pas insulino-dépendant, des gens plutôt après 50 ans qui ont plutôt un surpoids et qui n'ont pas forcément besoin d'insuline.
Le diabète, c'est une maladie chronique et une fois qu'on le laisse, c'est pour toute la vie. Il n'y a pas de chance au bout d'un moment que ça s'améliore.
Alors, le type 1, oui, c'est définitif malheureusement. Le type 2, il peut régresser et on parle maintenant de rémissions qui peuvent durer un certain nombre d'années, notamment après perte de poids très importante, comme notamment après chirurgie de l'obésité, par exemple.
C'est presque un traitement hein, pour certains patients. Oui, ils sont plus diabétiques après cette opération.
Ils peuvent ne plus avoir besoin de traitement du tout et ça peut revenir quelques années après, mais pas tout le temps non plus.
D'accord. Alors, vous abordez dans votre livre également ce qu'on appelle aujourd'hui le pré-diabète. Qu'est-ce que c'est ? Ça aussi, ça concerne qui ? Comment on sait qu'on est pré-diabétique, justement ?
Alors, c'est le stade juste avant, c'est le clignotant orange en fait, où la glycémie est un petit peu élevée, pas franchement diabétique, en clair pour ceux qui veulent, entre 1,10 g et 1,26 g à jeun. Alors on a encore moins de symptômes, on se plaint de rien, mais les clignotants sont un peu à l'orange. Et c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut vraiment faire des choses au niveau de l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique et régresser à un état vraiment normal.
C'est réversible.
C'est réversible, ouais. Et on n'est pas obligé d'évoluer vers le diabète.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiés de devenir diabétique, de type 1 ou de type 2? D'ailleurs, est-ce que de manger sucré, de manger n'importe quoi toute la journée, est-ce que ça peut rendre diabétique? Ça, c'est souvent...
Oui, c'est une question qui est souvent posée. En fait, non, c'est pas prouvé que l'excès de sucre, le manger trop sucré, cause un diabète. Alors, à part ça, l'alimentation joue quand même un rôle important. Une alimentation équilibrée et saine.
Voilà,
et
dans ce cas-là, mais vous ne gavez pas de sucre pour autant, voilà. C'est pas une bonne idée.
Parce que si vous êtes en prédiabète, si vous êtes limite en glycémie, si vous mangez trop sucré, ça va vous faire basculer vers le diabète. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais là, il y a une alimentation saine peut au contraire prévenir. Dans les facteurs de risque, il y a l'hérédité. Le fait d'avoir un ou deux parents qui ont été ou sont diabétiques, ça augmente
ça,
le risque.
C'est clair. C'est
plus problème. Dans le type 2 que dans le type 1, d'ailleurs. Le fait d'avoir un surpoids, une obésité, augmente beaucoup le risque également. Le fait d'être sédentaire, de ne pas avoir beaucoup d'activité physique, ça, c'est des facteurs importants. L'hypertension artérielle, il y a certains états qui aussi peuvent être associés. Là encore, ça ne veut pas dire qu'à 100% on est diabétique, mais c'est des facteurs de risque, donc il faut être plus vigilant et peut-être modifier son rythme de vie, son hygiène de vie.
Alors les chiffres du diabète sont impressionnants, on l'a dit tout à l'heure, hein, si on les prend tous, ça fait à peu près 5 millions de patients. On a l'impression que c'est une maladie qui augmente dans la population, que les personnes diabétiques autour de nous sont de plus en plus nombreuses. Comment on peut expliquer ça ?
Alors, le vieillissement, qui est une bonne chose, parce qu'après 65 ans, c'est un Français sur 10 qui est diabétique. Oui. Et donc, il y a de plus en plus de Français qui ont plus de 65 ans. Et parce que l'espérance de vie des diabétiques aussi a augmenté. Donc, c'est une bonne chose. Il y a malheureusement le fait que globalement, dans le monde entier, il y a plus de personnes en surpoids et en obésité. Donc, ce qui fait derrière ce qu'on appelle, entre guillemets, une épidémie de diabète, hein, ce qui est vrai. Un peu la malbouffe, c'est vrai. On est plus sédentaire, on mange parfois une alimentation trop transformée, trop riche, trop grasse, pas assez de fibres. Et ça peut aussi favoriser l'émergence du diabète.
Est-ce que le facteur stress peut influencer positivement ou négativement le diabète ? D'ailleurs, est-ce qu'avec le Covid et le confinement, vous avez vu des patients plus stressés, moins stressés, qui ont vu leur glycémie s'améliorer ou s'aggraver ?
Alors oui, c'est un point important. Il y a beaucoup d'études, mais en fait, c'est assez méconnu, qui ont montré un lien entre des facteurs stressants, qui peuvent être d'ailleurs dans l'enfance, dans la vie il y a quelques années, et le risque de développer un diabète. On a fait une étude basée sur des femmes de l'éducation nationale, près de 80 000 femmes, dans la cohorte 3N en France avec l'INSERM, qui a montré que le stress ressenti au travail chez ces femmes, c'est-à-dire le niveau de la demande qu'elles ressentent, le stress que ça peut occasionner, était corrélé positivement, c'est-à-dire plus il y avait de stress, plus leur risque de devenir diabétique dans les 5 à 10 ans qui suivaient était important. Donc on voit bien que le stress par des hormones qui font monter la glycémie
peut déclencher un diabète.
Ouais. Et là, même indépendamment d'un surpoids, parce qu'on peut dire que c'est parce qu'elles sont devenues en surpoids, mais là, c'était vraiment un effet direct qui semblait du stress. Pour répondre à votre question, on a cru ou on a pensé qu'avec le confinement et puis le Covid, c'était assez stressant pour nos patients diabétiques. On avait beaucoup parlé, souvenez-vous, du diabète.
Qui était plus à risque. Identifié tout de suite.
Pour certains, ça les a beaucoup stressés. Leur glycémie a pu monter parce qu'il y a un effet de faire monter la glycémie en aigu du stress. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les patients qui restaient chez eux confinés faisaient plus attention à ce qu'ils mangeaient. Il y avait peut-être un meilleur climat à la maison pour certains, moins de stress puisqu'ils n'allaient plus au travail. Et globalement, l'équilibre glycémique a été plutôt préservé pour la majorité de nos patients.
Merci, professeur Fabrice Bonnet. On va poursuivre cet entretien. Dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission dans laquelle on vous aide à mieux comprendre ce qu'est le diabète d'une part, mais dans laquelle aussi on vous propose des conseils pour vivre plus sereinement avec cette maladie, si c'est votre cas. On verra notamment comment l'alimentation et l'activité physique peuvent y contribuer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Fabrice Bonnet. Vous êtes diabétologue au CHU de Rennes et vous avez écrit le livre « Mieux vivre avec un diabète » aux éditions Marabout. Alors il y a tout de même un autre type de diabète un peu particulier dont on n'a pas encore parlé, le diabète gestationnel qui touche les femmes enceintes. De quoi s'agit-il précisément et pourquoi tout d'un coup telle ou telle femme va développer ce diabète-là ?
Alors, ce sont des femmes qui développent un diabète, donc une hyperglycémie, uniquement au moment de la grossesse, et plutôt au deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Et après l'accouchement, tout redevient normal, elles ne sont plus diabétiques. Et ça revient généralement à chaque grossesse ultérieure. Elles ont un risque de devenir diabétiques de type 2 plus tard qui est augmenté, mais c'est pas non plus du 100%, mais quand même. Ça traduit en fait un métabolisme du glucose qui n'est pas franchement normal, qui est un peu altéré. Et il y a une charge de travail qui est plus importante à cause du fœtus pour l'organisme et le pancréas. Et c'est pour ça que la glycémie monte. Mais ça peut se traiter par des mesures diététiques au départ et parfois par de l'insuline lorsque, malgré le régime, les glycémies restent élevées. Exactement.
Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on veut absolument traiter ces femmes et de les dépister ? Puisque si on se met à la place du patient lambda, si j'ai un taux de sucre qui est un peu élevé pendant quelques mois, c'est peut-être pas la fin du monde.
Vous avez bien raison. On en fait presque un peu trop pour le diabète gestationnel. Globalement, en fait, il y a peu de risques. Le bébé, en fait, peut être Le risque principal, c'est que le bébé soit un peu trop gros, un bon gros bébé de plus de 4 kilos, voire 4 kilos 5.
On aime bien les gros bébés.
Voilà. Et maintenant,
Mais après, il faut qu'ils sortent aussi.
Et puis, voilà, il faut qu'ils puissent sortir. Et on arrive à le dépister, c'est-à-dire que souvent, ils les font accoucher à 38 semaines pour que le bébé ne soit pas trop gros et ils arrivent à bien le voir à l'échographie. Il n'y a pas, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de risque de malformation. Mais globalement, c'est vrai qu'il faut éviter que les glycémies montent trop parce qu'en fait, face à ces glycémies maternelles un peu élevées, le fœtus sécrète de l'insuline qu'il fait grossir.
Eh oui, donc c'est quand même inquiétant, donc à surveiller.
Alors si on revient au diabète classique, hein, dans la tête des gens, qui dit diabète dit insuline. Est-ce que tôt ou tard, tous les diabétiques vont finir par avoir un traitement par insuline? Et justement, comment est-ce qu'on décide un jour qu'il est temps de prendre justement ce traitement?
Alors, dans le diabète de type 1, l'insuline est nécessaire, puisqu'il n'y a plus de sécrétion d'insuline et c'est toute la vie, généralement 3 à 4 injections par jour. Dans le diabète de type 2, l'insuline n'est pas obligatoire et une majorité de patients n'auront jamais d'insuline. Souvent, les patients pensent qu'on commence avec des cachets et on finira, comme ils disent, à l'insuline. Non, il y a des patients, les patients qui, à 90 ans passés, ont toujours des comprimés, n'auront pas d'insuline.
Il y a des médicaments, donc des antidiabétiques,
exactement,
en fait. Exactement,
hein, et qui fonctionnent bien. Parfois, le régime peut suffire. Parfois, le régime ne suffit pas complètement et on rajoute des comprimés. Et parfois, alors, lorsque le traitement oral par comprimé ne marche pas suffisamment, on peut rajouter une injection d'insuline, généralement une ou deux par jour. Mais ce n'est pas obligatoire.
On a compris qu'il y avait plusieurs traitements du diabète et pas que l'insuline, parce que dans la tête des gens, c'est parfois, ça se résume à ça. On ne va pas les détailler tous aujourd'hui, les traitements. En revanche, il y a quelques questions pratiques qui sont abordées dans votre bouquin de manière très précise et très claire, notamment une qui est posée souvent par les patients. L'insuline ferait grossir. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors oui, c'est vrai. L'insuline, on l'a vu pour le fœtus, le bébé, ça le fait grossir. Oui, c'est un facteur de croissance, mais qui est bénéfique. Mais l'insuline, en fait, favorise le stockage. Et donc, le stockage, ça peut être aussi un peu sous forme de graisse. Alors, tout dépend du niveau d'activité physique en même temps. Mais il peut avoir une petite prise de poids lorsqu'on met les patients sous insuline.
Et du coup, est-ce que vous avez des conseils justement pour limiter cette prise de poids ou elle est inéluctable, on ne peut rien faire? C'est comme quand on arrête de fumer, il y a quelques kilos qui vont...
Eh oui, mais c'est bien, on a arrêté de fumer.
On peut la maîtriser en faisant attention à son alimentation, en ayant surtout une activité physique en parallèle, qui fait qu'on va brûler aussi le sucre et une partie des graisses. Donc, si vous avez une alimentation qui n'est pas trop riche en glucides, eh bien, vous prendrez moins de poids que si vous avez une alimentation riche en glucides.
Alors, pour les patients qui, justement, doivent se piquer, notamment avec de l'insuline régulièrement chaque jour, il est conseillé par les médecins de varier les zones, les sites d'injection sur le corps. Pourquoi cette recommandation?
Parce qu'en fait, si le patient injecte toujours au même endroit, il va avoir une petite cicatrice fibreuse qui va se constituer. Ça fait comme une petite boule sous la peau. Ce n'est pas très esthétique, mais surtout, ça gêne la résorption de l'insuline. Donc, c'est bien de varier
un peu
sur
le ventre,
les côtés, les flancs, les cuisses, le bras. Parfois, les patients aiment bien un seul endroit et ils répètent. Donc, on leur dit de varier comme ça sur les différents jours de la semaine. C'est pour ces raisons-là.
Malgré tout, ça reste fastidieux. Plusieurs injections par jour, tous les jours, toute la vie. Il existe des pompes à insuline. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert? Et puis, est-ce qu'il y a peut-être des inconvénients à cette pompe?
Alors, la pompe à insuline, en fait, va diffuser dans... Il y a un petit cathéter qui est quand même sous la peau et diffuse l'insuline très régulièrement, toute la journée. Le débit est contrôlé quand même par le patient, pour pas qu'il y ait... Parce que s'il y a trop d'insuline, il y a des hypoglycémies. S'il n'y en a pas assez, le taux de sucre est trop haut. Mais ça évite les injections dans la journée. Il faut un patient quand même qui soit assez raisonnable, qui puisse...
Qui soit capable de bien gérer son diabète,
Il faut surveiller sa glycémie. La pompe ne va pas marcher toute seule. Et puis, parfois, il y a des risques. Alors, dans les inconvénients, il y a des risques de panne, de cathéter qui se bouche. Et dans ce cas-là, l'insuline n'est plus distribuée sous la peau. Et puis parfois, quand il fait très chaud, comme en ce moment, ou pour des patients qui ont une activité sportive, le fait d'avoir ce cathéter et cette pompe rattachée à leur corps n'est pas toujours bien toléré. Mais il y a eu beaucoup de progrès avec des pompes de plus en plus petites, très miniatures, et des pompes de plus en plus automatisées aussi. Donc il y a beaucoup de progrès.
C'est un choix du patient. Tous ne le veulent pas. Non, il y en a qui finalement sont très habitués.
Qui ne veulent pas. Et c'est vraiment au patient de choisir. C'est lui qui a le choix. Et après, le médecin peut dire si c'est raisonnable ou pas. Parfois, un patient peut souhaiter une pompe et on dit, pour l'instant, c'est pas très raisonnable, mais c'est toujours le patient. Quel dernier mot quand même.
Très bien, professeur Bonnet, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre notre grand dossier du jour consacré à la vie avec un diabète. On va continuer avec des questions pratiques, celles que posent le plus souvent les patients en consultation. Notre invité les a recensées dans son livre et nous apporte aujourd'hui quelques réponses, quelques conseils dans cette émission. On y revient très vite, à tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Fabrice Bonnet. Je rappelle que vous êtes diabétologue au CHU de Rennes et avec vous, on tente de répondre à ces questions pratiques que vous posent régulièrement les patients diabétiques en consultation. On va passer justement à l'alimentation qui est évidemment au centre de nombreuses préoccupations dans le diabète. Il se pose bien sûr la question de la consommation de glucides, de sucre. Est-ce que c'est ou pas le fameux zéro sucre quand on est diabétique? Il y a eu des modes différentes hein, là-dessus, des recos qui ont changé. Aujourd'hui, on en est où de ce point de vue-là?
Oui, il y a encore une mode d'un régime très pauvre en glucides qui s'appelle le régime cétogène. Bon, mais où il n'y a quasiment pas de glucides. Et vous ne pouvez pas tenir très longtemps comme ça. Parce
c'est
que
frustrant.
D'abord, c'est frustrant, vous mangez que des graisses et des protéines. Certes, les glycémies peuvent s'améliorer, mais au prix d'un déséquilibre de l'alimentation, de certaines carences potentielles, vous allez former une charge acide. Bref, ce n'est pas très bon pour l'alimentation. Après, l'idée de diminuer la charge en glucides, elle est bonne. Et j'y souscris quand les patients me disent « j'ai diminué mes féculents, mon diabète s'améliore ». Tout à fait. Autrefois, vous savez, on obligeait presque les diabétiques à prendre des féculents à chaque repas. C'était une bêtise. C'était pour éviter des hypoglycémies, mais souvent c'était une charge calorique qui prenait du poids et donc c'était une sorte de cercle vicieux. Non, on n'est pas obligé de prendre des féculents à chaque repas si on est diabétique. Voilà, ça c'est important comme message.
Alors les calories ça compte, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'index glycémique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est?
Alors en fait, c'est la capacité d'un aliment à faire monter la glycémie, son pouvoir hyperglycémiant. Et en fait, il peut varier. Il peut varier selon la cuisson, il peut varier selon la quantité de fibres aussi. Et l'exemple, c'est par exemple la baguette de pain, la baguette blanche, un index glycémique plus élevé que le pain
c'est
complet.
C'est ma préférée, c'est dommage.
Ah, c'est la meilleure.
Le pain complet, le pain au son, le pain sec.
Tous les pains secs, là, il est marrant, on sait.
C'est plus pouf-pouf, mais ça fait moins monter la glycémie.
Moi, il reste un peu coincé au fond de la gorge. Alors.
Mais justement, c'est parce qu'en fait, la digestion est plus lente. Et donc, ça passe plus lentement.
Il faut mâcher aussi, Mélanie.
De toute façon, quand on en mange un tout petit morceau minuscule, forcément, ça passe bien. Vous disiez que ça dépendait aussi de la cuisson. Je vais prendre l'exemple des pâtes, par exemple. Les pâtes, en fonction de la cuisson, les pâtes blanches, on va dire, elles n'ont pas du tout le même index glycémique. C'est quoi la cuisson parfaite pour un diabétique?
C'est plutôt al dente, pas très cuite, parce que justement, la digestion est plus difficile et plus lente que si les pâtes sont surcuites ou le riz gluant, où là, ça va passer très vite dans l'intestin et dans le sang. Et donc, ensuite, la glycémie monte.
En plus, c'est pas bon, les pâtes tout plat.
Alors, dans votre livre, vous insistez notamment sur les sucres cachés, notamment pour les diabétiques, mais peut-être aussi pour le reste de la population. De quoi parlez-vous? Est-ce que vraiment il y en a partout et en quoi c'est dangereux?
Il y en a en fait, effectivement, c'est pas mal utilisé dans l'agroalimentaire et au-delà, parce que parfois comme conservateur, notamment vous savez, dans les confitures, si elles sont sucrées, eh bien, il y aura moins de moisissures, mais donc c'est plus sucré. Et puis parce que c'est aussi un correcteur d'acidité pour au niveau du goût. Par exemple, dans le fameux ketchup ou dans les sauces tomates, il y a souvent, et ça on ne s'en rend pas vraiment compte, un peu de sucre. Ce n'est pas des quantités faramineuses, mais on n'y pense pas en fait. Et donc c'est quand même des sucres cachés.
Comment on se repère quand on est diabétique avec tout ça? On évite les produits transformés, c'est ça un peu la base?
Oui. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'applications qui peuvent rendre service pour ceux qui sont vraiment maniaques et qui veulent regarder toutes les compositions des aliments, hein, qui permettent de bien disséquer ces compositions. Après, le fait maison est souvent moins sucré. Le fait de ne pas avoir de produits transformés, c'est plutôt pas mal. Et il y a des études qui ont montré que les produits ultra transformés, ils sont sur la sellette en ce moment parce qu'il y a un risque de diabète et de maladie cardiovasculaire qui est augmenté. Probablement parce qu'ils sont métabolisés plus vite, ils font sécréter plus d'insuline et que quand le produit est fait maison, il y a plus de fibres justement.
Et plus d'amour.
Exactement.
Ça, c'est moi qui le rajoute.
En ce moment, il fait chaud, on a forcément envie d'une petite glace. Est-ce que c'est possible quand on est diabétique? Est-ce qu'on doit le remplacer par autre chose?
Oui, c'est un dessert qui n'est pas si sucré que ça. Le sorbet est encore mieux, la charge calorique est un peu plus faible, mais même une glace, une crème glacée, c'est un petit peu plus riche en lipides, en graisse que le sorbet. Mais en quantité de sucre, ce n'est pas si important que ça. Et par rapport à d'autres gâteaux beaucoup plus compacts. Donc oui, vous pouvez. Deux boules, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'en mettre quatre.
Oh, deux, mais il est généreux. Moi, je vous adore. Hein. Si un jour j'ai un diabète, je viendrai vous voir. Hein. Donc ça, c'est parfait. On va passer à l'activité physique, c'est important. Il y a pas mal de questions auxquelles vous répondez dans votre livre. Déjà, si on parle de prévention, donc là, pas forcément pour les gens diabétiques, est-ce que faire du sport, ça peut aider à ne pas devenir diabétique?
Oui, tout à fait. Beaucoup d'études l'ont vraiment montré. Pour des patients qui étaient justement en pré-diabète, en situation clignotant orange, eh bien, le fait de faire... Alors, généralement, c'est au moins 30 minutes d'activité tous les jours ou au moins 3-4 fois par semaine ou 2h30 sur la semaine de marche rapide, de vélo ou de rameur ou de jogging, eh bien prévenait le diabète. Donc oui, ça peut prévenir même s'il n'y a pas de perte de poids.
Et chez les diabétiques, est-ce que le sport peut faire partie d'un des traitements? Est-ce qu'on peut améliorer son taux de sucre? Eh bien, en se bougeant un petit peu.
Tout à fait, tout à fait. Et les études, là aussi, ont bien montré qu'il y a une baisse, alors pour les diabétiques qui nous écoutent, de l'hémoglobine glyquée, de l'HbA1c, qui est le baromètre, le reflet de leur glycémie moyenne. Oui, il y a une amélioration des glycémies qui est manifeste. Pourquoi ? Parce que le glucose est mieux absorbé, il est mieux utilisé, il rentre dans les cellules musculaires. Bref, la glycémie baisse.
Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus efficaces sur la glycémie que d'autres ? Et est-ce qu'il y a un moment de la journée d'ailleurs où ce serait plus efficace pour les patients diabétiques ?
Alors,
de faire
en fait,
sport.
Ce qui est important, c'est que le patient déjà choisisse ce qui lui plaît, ce dont il a envie. Parce que le forcer à acheter un vélo, mais qu'il va utiliser deux fois,
ouais.
on l'a fait, mais en fait, c'est contre-productif. Là, l'endurance, donc ce qui peut être natation, vélo, marche, course, c'est bien. Mais il y a aussi la musculation. Le renforcement musculaire peut tout à fait,
d'accord.
Et il y a des études qui ont bien montré, avec des séquences courtes, être efficace. Même, par exemple, de soulever des haltères, c'est bénéfique aussi. Les efforts de résistance aussi. Donc finalement, un mix des deux, endurance, résistance, renforcement musculaire, c'est excellent.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Bonnet, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour en savoir plus, je rappelle votre livre très pratique, « Mieux vivre avec un diabète », qui est paru donc chez Marabout. « Mieux vivre avec un diabète » chez Marabout. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Jimmy va tout nous dire sur l'éjaculation précoce. À partir de quand considère-t-on qu'il y a vraiment un souci d'ordre médical ? Que peut-on proposer aux hommes concernés ? Il va tout nous expliquer. Et c'est bien sûr sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les mots du quotidien avec un éclairage du docteur Jimmy Mohamed sur l'éjaculation précoce. Savez-vous à partir de combien de fois, par exemple, parle-t-on réellement d'un problème médical ? Y a-t-il une tranche d'âge d'hommes les plus concernés ? Comment remédier à ce problème ? Y a-t-il des traitements ? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Valentin Piovesan.
L'éjaculation précoce, c'est quand ça vient trop tôt, ça se maîtrise pas vraiment.
C'est-à-dire que c'est tout de suite, c'est une éjaculation qui est très rapide.
Quand un homme n'arrive pas à se contrôler, bah voilà, c'est dommage hein, qu'il éjacule de façon précoce, parce que c'est un non-contrôle ou une excitation trop forte.
Ça se décide pas, je crois que c'est une maladie. Quand la personne est trop excitée, il fait ce qu'il veut, après voilà, s'il prend son pied.
Mais en général, c'est plutôt des enfants, voire des adolescents. Je pense pas que pour les personnes plus âgées, ce soit le cas.
Ouais, je pense qu'il y a pas d'âge, ça peut être chez les jeunes, chez les anciens.
Si on regarde le mot précoce, ça dit... fini par assez jeune.
Non, je pense pas que ce soit forcément lié aux jeunes. C'est une histoire de maturité aussi, de se connaître en rapport à sa sexualité.
Jimmy, un sujet qui vous tient à cœur, on parle d'éjaculation précoce au sens... Mais non, c'est important, ça, c'est ça que je veux dire.
Ah oui, c'est pas un voilà. problème personnel.
Non, bah non, je ne veux jamais attention. De choses comme ça. Non, non, bien sûr. Au sens pathologique du terme, hein, vraiment, de quoi parle-t-on pour démarrer ? Il est important quand même de bien préciser les choses. Je veux dire, une éjaculation précoce une fois de temps en temps, un peu rapide, c'est pas bien grave. Par contre, ça devient problématique à partir de quand ?
Alors, ça a une définition. Tout d'abord, il faut éjaculer de façon rapide après la pénétration. Il faut aussi avoir une incapacité à contrôler ou à retarder cette éjaculation. Imaginez, vous êtes très pressé, que votre partenaire vous dit « Bon, allez, il est temps d'aller dormir. Termine vite ton affaire et que ça se termine en 2 minutes. » Parce que c'était voulu.
Volontaire.
C'était
voilà.
volontaire. Ce n'est pas une éjaculation précoce. Et puis, dernier critère qui est aussi très important, il faut qu'il y ait des conséquences négatives de cette éjaculation précoce. Parce qu'imaginez que vous finissez en une
très
minute.
Très vite, mais vous êtes content.
Mais vous êtes content de vous. Et que votre partenaire vous dit « Mais t'as été un champion, bravo. »
Là, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ça, c'est problématique lorsque vous avez de la frustration, de la culpabilité.
Que ça engendre des problèmes dans le
exactement,
couple,
qui a une sensation de dévalorisation ou d'échec. Et dans ces cas-là, les trois critères vont définir l'éjaculation précoce.
Écoutez, c'est très clair, grâce à vous, Jimmy. Si on s'en tient donc à cette définition, ça concerne combien d'hommes environ ? Est-ce qu'on a une idée précise de ça ? Parce que j'imagine qu'ils n'en parlent pas forcément tous. Des hommes plutôt jeunes, plutôt âgés, est-ce qu'on connaît un profil ?
Oui, c'est 20 à 25% de la population. C'est
ah
énorme.
Oui, quand même.
Ça veut dire quand même
un quart des hommes.
Et, oui, et selon d'autres études, ça va jusqu'à 30% des hommes. Et majoritairement, ça va toucher les 25-35 ans.
Donc jeune, hein, quand même. Ouais.
Jeune, mais avec différents degrés. Dans 5% du temps, vous allez avoir une éjaculation avant même la pénétration ou en moins d'une minute.
Ouais,
c'est compliqué.
C'est rapide.
Dans 5 à 10% du temps, vous allez éjaculer en 1 à 4 minutes. Donc c'est un peu mieux
vous
quand même.
Vous avez mesuré quoi, tout ça.
Ouais, et dans 10% du temps, c'est entre 4 et 5 minutes.
Ça va, c'est mieux déjà.
C'est mieux déjà. Sachant que le délai moyen d'éjaculation en France, eh bien, il n'est pas d'une demi-heure. Hein. Ça, c'est dans les films porno.
Non, ça n'existe pas.
Il est simplement de 8 minutes. C'est 8 minutes. Donc finalement, quand vous êtes à 5 ou 6 minutes, vous êtes dans la moyenne nationale et donc vous êtes presque un champion olympique.
C'est un sujet un peu tabou, Jimmy. D'ailleurs, on en rit, mais c'est pas drôle hein, pour les hommes qui sont concernés. Le problème, c'est que beaucoup de patients, n'en parlent même pas à leur médecin.
Non, exactement. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas une maladie, c'est une réponse sexuelle qui est inadaptée car elle est trop rapide. Alors, les causes, elles sont multiples. Alors, on a dit que ça touchait plutôt les jeunes parce que finalement, il y aurait peut-être un mauvais apprentissage de la sexualité. Et puis, la personnalité pourrait jouer. Lorsque vous êtes un peu introverti, ou un peu anxieux, eh bien, ça peut être plus difficile de se contrôler. Et biologiquement, il se passe des choses. Vous avez des récepteurs à la dopamine et à la sérotonine qui vont moduler justement cette expression d'éjaculation précoce.
Bon, heureusement que vous y ajoutez des choses scientifiques parce que je pense qu'on ne viendra pas vous consulter pour ce sujet-là, Jimmy. Quel type de médecin on va voir si on a ce type de problème ? Est-ce que le généraliste peut gérer ça ? ou est-ce qu'il faut aller voir tout de suite un spécialiste, un urologue par exemple?
Parlez-en à votre médecin traitant, l'urologue, le sexologue, et puis après il y a des techniques. On va vous apprendre justement à contrôler cette érection, à vous masturber seul dans un premier temps, puis en couple, pour apprendre à reconnaître justement les signes avant-coureurs, l'éruption du volcan, et ça va diminuer votre excitation. Et il existe certains traitements, vous pouvez mettre de la lidocaïne sur le bout du gland, ça va anesthésier, ou mettre un préservatif, hein, ça fait avoir un effet.
Ça réduit les sensations.
Oui, parce qu'on peut augmenter justement de 300% la durée du rapport, vous passez d'une minute à 3 minutes, donc c'est génial, on est content.
Très bien, bon, on y reviendra peut-être une autre fois plus précisément. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ce point extrêmement clair. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio, comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Je devrais même arrêter de vous présenter puisque votre titre ne change pas tous les jours depuis 2 ans.
Et heureusement.
Voilà. Donc, aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question d'Adam. Il a 20 ans. Je vous la lis tout de suite. J'ai une prothèse de jambe car je suis née sans jambe droite et j'ai vachement de mal à rencontrer des filles. À cause de ça, je me suis inscrite sur des applis de rencontre, mais je n'arrive jamais à rencontrer la personne parce que j'ai peur qu'elle me juge. Vous avez des conseils? Catherine, alors bon, là clairement il y a un handicap de naissance, ce que nous décrit donc Adam. On peut comprendre effectivement que ça engendre peut-être un manque de confiance en soi, et puis dans les relations intimes, sociales, ça peut engendrer ce genre de difficultés, on le comprend tout à fait.
Bien sûr, vous imaginez bien que même quand on a ses deux jambes, ses deux bras, ses doigts, etc., les choses sont compliquées pour faire sa place dans la société, parce qu'on s'évalue en permanence par rapport aux autres. Donc évidemment, quand on est avec un handicap
visible,
visible, avec tout ce que cela attire de curiosité ou au contraire de compassion exagérée, c'est difficile de se sentir un homme capable de séduire, de prendre, d'embarquer quelqu'un dans une aventure érotique. Et donc évidemment que la confiance en soi, plus que jamais, elle est malmenée. Mais souvent, les gens qui sont handicapés sont aussi, ont des ressorts incroyables, quand d'autres, ils ont à peine un petit défaut ou une petite difficulté, ils sont vite remis en question de façon forte. Mais évidemment que dans le cadre dans la mesure où ces rencontres se font, comme à notre époque, comme souvent, par le biais des applis, évidemment.
L'avantage
que...
en même temps, c'est que ça ne se voit pas sur une appli. Donc, il peut être amené à rencontrer n'importe qui, c'est ça qui est chouette aussi.
Oui, mais c'est le désavantage, justement. Ouais. Parce que dans la vraie vie, vous rencontrez les gens et vous les aimez pour qui ils sont.
Ah oui.
Et vous passez outre l'handicap. Tandis que quand vous les fantasmez de l'autre côté de votre...
Et qu'à l'arrivée, ils ne sont pas comme on les a imaginés.
C'est beaucoup plus compliqué. Mmh. C'est sûr que c'est... Enfin, moi, je travaillais plusieurs fois avec des gens qui avaient des handicaps comme ça, suite à des accidents ou de naissance. Il faut beaucoup de force pour pouvoir se dire qu'on est apte, et c'est vrai que le distanciel n'est pas le plus approprié. La présence permet de voir que vous êtes capable malgré tout, et du coup en être particulièrement touchant. Alors évidemment, tout le monde n'est pas client, j'allais dire, d'être touché pour pouvoir construire une relation. Mais encore une fois, le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Donc c'est pas parce qu'il me manque une jambe que je plais moins et que je plais pas à tout le monde, puisque de toute façon, même avec tout, je ne plais pas à tout le monde.
Et du coup, si vous lui conseillez d'éviter les applications de rencontre, parce que finalement, vous dites que c'est plus un frein qu'une aide, mais dans une époque où on utilise beaucoup ces réseaux pour les rencontres, comment est-ce qu'on fait? Parce que j'ai l'impression que c'est révolu le temps où on allait dans des bars, dans des restaurants.
On a le droit de nouveau, Jimmy, en terrasse, demi-jauge et tout ça,
mais
c'est possible.
On a l'impression que c'est un frein, non, que les jeunes...
Je crois que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je pense que le mieux, c'est de pouvoir effectivement rencontrer les gens et les voir évoluer, enfin se voir évoluer, parce que j'imagine que s'il est né sans jambes, compte tenu de l'époque, il a une prothèse, donc de fait, ça ne se voit pas. De toute façon, ce sont des choses qui, avec lesquelles on doit pouvoir faire dans notre vie. Et donc, plus on le fait à distance, où il faut que l'appli soit noté qu'effectivement, il y a un handicap, mais pour autant qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Parce que quelqu'un
autant,
qui...
il a de l'humour, il a plein d'autres qualités, on s'en
bien
fiche.
Sûr,
en fait,
bien
finalement.
Sûr, bien sûr. Je me souviens, moi, d'avoir vu sur un terrain de golf un joueur extraordinaire, mais d'une beauté extraordinaire, d'une gestuelle extraordinaire, et sur une seule jambe. Et être capable d'une telle acrobatie, enfin, d'une telle précision et équilibre sur une seule jambe, ça force le respect au combien. Et finalement, le plus faible n'est pas toujours celui que l'on croit.
Avant de rentrer peut-être d'ailleurs sur des applis ou de tenter justement de rencontrer quelqu'un comme ça de manière un peu dirigée, quoi, je dirais, finalement laisser faire le hasard. Et peut-être qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, sur ce manque de confiance en lui peut-être lié à ce handicap.
Faire un travail, et le travail n'est pas nécessairement psychologique, il peut être aussi d'avoir, de se prouver dans la vie tous les jours, je donnais l'exemple de ce sportif de haut niveau d'ailleurs, de se prouver sa compétence qui permet d'avoir une idée forte de soi. Et d'ailleurs, la difficulté de l'autre, parce qu'on a peur de ne pas être accueilli quand on est handicapé, mais la réalité, c'est que est-ce que c'est moi qui ne suis pas accueilli ou est-ce que c'est l'autre qui ne pourra pas montrer aux yeux de tous sa propre valeur parce qu'avec un handicapé. C'est-à-dire que est-ce qu'il me faut être le phallus tout-puissant qui a ses deux jambes bien plantées, son pénis formidable pour que la femme à côté de moi puisse rayonner. Et souvent, le mépris ou la difficulté de s'engager pour une femme face à un homme comme cela, et je pourrais trouver la même chose dans l'autre sens,
bien sûr.
C'est une idée narcissique de soi dans le regard de la société. Donc, il faut qu'il réalise que c'est ça la difficulté pour que lui, il dépasse son épreuve, puisque de toute façon, il va devoir vivre ainsi.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain. Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous. On revient donc demain à la même heure. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Ils ont joué une divine comédie. Et oui, alors, on va le premier d'entre eux, on va parler de Dante et de sa divine comédie, Sarah Bernhard.
Vous faites bien, Sarah Bernhard.
Oui, je fais très bien, Sarah Bernhard. Mais quand elle entre en scène, c'était quand même la divine. Oui. C'est comme ça qu'on l'a surnommée. Et vous, vous avez choisi une autre divine.
Oui, son surnom, c'était Divine. C'était la muse de John Waters. Et elle a vraiment éclaboussé de son talent, on peut le dire, les années 70, dans des films complètement trash, vous verrez.
Ben, eux aussi, ils sont divins. Alors, on va rester, bien sûr, avec vous, messieurs. Et vous aussi, qui nous écoutez, restez sur Europe 1.